Merci beaucoup, Jean. C'est évidemment un grand honneur d'être ici, dans un endroit aussi prestigieux, premièrement. Et donc, je te remercie très chaleureusement pour l'invitation. C'est un grand honneur d'être inclus dans ce cycle de cours, dont j'ai suivi le premier en vrai, en live, ce matin. C'est également un honneur important parce que le sujet, en fait, il se trouve qu'il est extrêmement fortement relié au sujet du cours. Et donc, j'espère que vous retrouverez quelques éléments du sujet du cours, y compris celui de ce matin. En particulier, probablement, tout ce que Jean n'a pas dit, je vais en parler. Enfin, une partie, en tout cas, toute la face cachée. Donc, ça, vous le verrez à l'occasion. Enfin, c'est un honneur également, je rebondis sur ce qu'a dit Jean tout à l'heure, quand il parlait de photo-oscillation, il se trouve que maintenant, je suis directeur du laboratoire Aimé Cotton. Et c'est effectivement l'époque à laquelle référait Jean était vraiment une époque extraordinairement excitante pour nous tous au laboratoire lorsque ces molécules et ces technologies ont été développées au laboratoire. Voilà, c'était mon introduction. Et donc, j'ai fait les transparents en anglais et je vais parler en français. J'ai pensé que c'était un compromis raisonnable. Et donc, je vais vous présenter donc, certains travaux de l'équipe au laboratoire. Donc, cette équipe s'appelle Théomol, ici, une équipe que j'ai créée il y a peut-être un peu plus de 10 ans maintenant, 20 ans même, maintenant, oui, ça va vite. Et puis, donc, au laboratoire Aimé Cotton avec donc, nos tutelles. Et alors, j'ai intitulé ce titre, ça vient d'un, comme je vais l'expliquer, ça vient d'une revue que j'avais écrite. Et en fait, c'est intéressant parce que finalement, les molécules froides, Jean employait le mot chimie tout à l'heure, justement, on est justement à cet intermédiaire-là. C'est-à-dire, on fait de la chimie, c'est-à-dire on lit les atomes, mais on le fait avec des arguments de physiciens et pas des arguments de chimistes. Je pense que dans vos études, vous aurez tous compris qu'il y avait une différence d'approche, de point de vue, on va dire. Et là, on est vraiment un petit peu à l'intermédiaire et je crois que c'est ça qui rend les choses également assez intéressantes. Donc, évidemment, il s'agit d'un travail d'équipe. Ici, les gens qui ont joué un rôle sur les résultats que je vais présenter sont les gens qui sont ici. Ting Xie, qui était postdoc, Nadia Bouloufa, ma collaboratrice de très, très longue date, Eliane Luc, émérite au laboratoire, Romain Vexio, un chercheur recruté maintenant depuis un peu moins de 10 ans, Maxence Lepers, un peu plus de 10 ans, qui est maintenant à Dijon, et une collègue également en Hongrie qui a fait plusieurs postdocs avec nous. Et ici, c'est une présentation, on a une photo de groupe hein, qui commence à dater un tout petit peu, et puis j'ai remis ici les noms des personnes en gras qui sont impliquées, également la composition de l'équipe ici, et qui génère vraiment des interactions extrêmement fructueuses au jour le jour. Alors, comme je le disais, ce titre reprend en fait, le titre d'une revue que j'avais écrite avec mon collègue Maurice Raoult et Eberhard Thiemann en 2006, et justement, c'était une revue, il y en a eu plusieurs sur les molécules froides, une revue et puis surtout un numéro spécial, en fait. Et en fait, j'ai pris ici deux, trois... Je me suis remis en mémoire quelques phrases qu'on avait écrites à l'époque, des choses du genre « Molecules are too difficult, molecules contain too many atoms ». Ce n'est pas nous qui avons inventé ça, mais c'est un point de vue qui est assez répandu, surtout chez les physiciens atomiques. Et c'est là où je disais que, heureusement, les physiciens, donc, ils ont une longue expérience pour résoudre ce genre de dilemme de la complication en mettant en place des modèles qui permettent de simplifier la dynamique de ces systèmes et qui permettent d'identifier les interactions principales. Je crois que ce qu'on a entendu ce matin est juste parfaitement représentatif de ces déclarations, évidemment. Et puis après, manier la métaphore culinaire sur quelques éléments pour faire le point un peu sur l'état de l'art de l'époque. Et puis, un peu plus tard, bon là, c'est un peu de publicité personnelle, mais il se trouve que il y a un livre qui est paru ici sur Cold Chemistry et qui parle vraiment comment est-ce qu'on peut aller plus loin que deux atomes et d'arriver vraiment à réinventer quelque chose qui est vraiment de la chimie à température extrêmement froide. Quand on parle de température, bon, c'est intéressant de mettre les ordres de grandeur concernés par la physique moléculaire, évidemment je parle de molécules, et par rapport à cette échelle habituelle que l'on a des températures. Et alors c'est intéressant dans le cas des molécules, et on a commencé à le comprendre dans ce cours aussi, c'est que finalement, lorsqu'on s'intéresse aux molécules, on regarde des énergies qui couvrent une douzaine d'ordres de grandeur. parce que quand vous avez un puits de potentiel, eh ben, on a vu, hein, typiquement, l'énergie de... Bon, je vais m'habituer au fur et à mesure de l'exposé. La température associée à l'énergie de liaison est de plusieurs milliers de Kelvin. Et puis ensuite, quand on déroule ainsi les ordres de grandeur en température, on voit qu'à chaque fois, on y associe un mouvement caractéristique de la molécule. Et ici, on tombe hyper fine, ça vaut pour les atomes et les molécules, bien sûr, jusqu'à l'énergie de translation. Et donc, on voit que finalement, lorsque l'on prend des molécules froides, eh bien, on doit se préparer à explorer tous ces ordres de grandeur, et ça pose parfois des problèmes dans les modèles, dans la précision numérique, etc. Donc, il faut être très prudent par rapport à ça. Là, ce sont quelques déclarations générales, de politique générale. Aujourd'hui, on dirait des éléments de langage. Mais c'est vrai que c'est évidemment la matière froide, c'est un des domaines principaux de la physique atomique moléculaire depuis plusieurs décennies. Et en fait, finalement, parce qu'on se rend compte que ça nous permet vraiment d'aboutir à un contrôle, ou d'espérer en tout cas d'aboutir à un contrôle complet d'un système quantique, vraiment jusqu'au niveau le plus fin. Et je pense qu'il y a évidemment des milliers d'exemples qui illustrent ça. Et évidemment, un développement récent, c'est que évidemment, ce domaine est connecté à plusieurs autres domaines, que sont la physique statistique, la matière condensée, l'optique, la métrologie, les techno-quantiques, la chimie froide, comme je l'ai dit. Et bien sûr, tout ça ayant bénéficiant de tous ces développements absolument spectaculaires de toutes les méthodes de refroidissement des atomes et des ions, puisqu'au total, on part toujours des atomes et des ions. Et alors, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur évidemment cette interaction avec l'expérience, en fait, pour quelqu'un qui fait de la théorie, des modèles, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a ici une opportunité, les techniques expérimentales étant tellement développées, tellement puissantes, on a vraiment la possibilité de comparer de façon extraordinairement fine théorie et expérience. Et c'est ça qui fait en fait l'intérêt, en tout cas qui fait mon intérêt de pouvoir interagir avec les expérimentateurs, parce qu'effectivement, sans cesse, on est là et on essaie de synchroniser pour effectivement bien comprendre ce qui s'est passé dans les expériences. Alors, quel type de molécules ? Alors, les espèces qui sont vraiment les plus à la mode actuellement sont celles que l'on va appeler bon, ultra-froides, on est d'accord, mais surtout polaires. Alors, ça a l'air d'être deux fois le même mot, évidemment, c'est deux contextes complètement différents, ultra-froides pour la température et pour l'énergie cinétique, polaires, c'est parce qu'elles ont deux pôles, en fait, je devrais dire dipolaires, d'accord ? C'est-à-dire des molécules qui présentent un moment dipolaire magnétique ou électrique, et qui, lorsqu'elles vont interagir à grande distance, eh bien, elles ne vont pas interagir de la même façon selon qu'elles s'approchent comme ça ou comme ça. Donc ça génère une anisotropie dans ces interactions à grande distance, et qui peuvent également aboutir à des problèmes vraiment intéressants, dont je ne vais pas pouvoir faire la revue ici. Et donc, il y a, par exemple, dans cette revue de 2009, là, de Thierry Lahaye et collaborateurs, il y a tout un tas de phénomènes qui sont déjà évoqués, qui sont associés à ça. Je vais juste prendre un exemple, parce que, évidemment, c'est quelque chose qui prend une amplitude énorme depuis un certain nombre d'années. C'est le lien avec, par exemple, la simulation quantique que l'on peut faire, c'est-à-dire de quelle manière on peut simuler des interactions, dans un système condensé. Et alors, si l'on prend... Là, c'est vraiment un exemple qui vient d'un article, là aussi, assez célèbre, de mon point de vue, enfin, assez fondateur, ici, du groupe de Peter Zoller, ici. Finalement, si l'on prend des molécules qui sont doublement polaires, c'est-à-dire des molécules qui auront un moment magnétique de spin, et un moment dipolaire électrique, donc associé à une interaction électrique. En fait, ce qui est intéressant, c'est que l'interaction dominante va être l'interaction entre les deux dipôles électriques. C'est celle qui aura la plus grande portée. Donc, si l'on imagine que l'on a ces molécules dans un réseau optique, eh bien, c'est cette interaction-là que les molécules vont ressentir en premier. Mais si, en plus, elles ont un moment de spin, ici, évidemment, l'interaction spin-spin va être extrêmement faible et va être, pour ainsi dire, invisible. Néanmoins, la façon dont les deux moments dipolaires électriques vont interagir va dépendre de l'état de spin de ces deux molécules. Ce qui fait qu'il y a moyen, en quelque sorte, de faire porter l'interaction spin-spin par l'interaction dipôle-dipôle électrique. Voyez ? Et donc, c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir jouer et qu'on va pouvoir faire des problèmes de simulation, et dans ce cas précis, de simuler une interaction spin-spin. Donc, j'aime bien cet exemple. Et ces molécules doublement dipolaires font partie des tentatives actuelles des chercheurs pour les réaliser. Et il y a actuellement sur le marché, en quelque sorte, deux exemples connus. L'une, c'est rubidium-strontium, où il y a une expérience à Amsterdam, dans le groupe de Florian Schreck, mais il y a également Ytterbium Rubidium, par exemple à Düsseldorf, et je crois aussi aux États-Unis. Avant de commencer les résultats, je m'étais dit que ça valait le coup de faire un petit historique sur ce modèle. Et je remercie vraiment Jean d'avoir mentionné le laboratoire et mes comptes, je vais y revenir après. Mais pour moi, le domaine démarre il y a 34 ans, et avec deux chercheurs, John Weiner et Paul Julien, qui sont vraiment des pères fondateurs de ce domaine. Et John Weiner, parce qu'il était dans un département de chimie, il faisait plutôt des collisions, et Paul Julien, parce que lui, il était physicien moléculaire aussi, il a fait beaucoup de collisions. Caché dans un article de 87, il regarde, il commence à invoquer ce processus de photosensation, de l'inventer, de le proposer. Et quelque part, sur la troisième page, on voit que si on photoassocie deux atomes ici pour former une molécule excitée, cette molécule excitée, elle peut se désexciter dans une molécule. Et ça, c'est une formation de molécule froide. Et c'est passé totalement inaperçu. Vraiment, totalement. C'est-à-dire, ça a été mis dans la troisième page du papier, mais ça a été oublié après. Et donc, ici, il y avait un nombre caractéristique qui donnait un petit peu en quelque sorte le pourcentage que l'on avait de former. Typiquement, on avait la possibilité, avec leur calcul, de former 10% de molécules froides à partir de ces molécules photoassociées. Donc ça, pour moi, c'était le point de départ. Et l'année d'après, il y a eu la première expérience de molécules froides qui a consisté en fait à détecter un ion moléculaire. C'est-à-dire, il se trouve que on faisait une photoassociation on avait des atomes froids, on excitait les atomes dans cet ensemble d'atomes de sodium froid phéoniste. Et puis, la dynamique du système faisait qu'on créait un ion moléculaire. On sait pourquoi on l'a créé, etc. Mais d'une certaine manière, c'est la première expérience de molécules froides. On a effectivement un système moléculaire dans un contexte ultra froid. Et ce qui est amusant, c'est que dans ce domaine-là, à peu près tous les 5 ans après, il s'est passé quelque chose. Alors, 5 ans, plus ou moins, non, je suis d'accord, ça peut. Mais essentiellement, c'est ça. En 1993, il y a eu 3 manips vraiment fondatrices de photoassociation où on montrait que tous ces traits-là, ce sont en fait des niveaux excités proches de la limite de dissociation de potentiel moléculaire. Vous voyez ? Et on en a trouvé plein. Et c'est devenu une méthode de spectroscopie de photoassociation parce qu'on arrive à en trouver plein et ça a montré tout le potentiel de la méthode. Donc voilà, j'ai mis ici deux expériences fondatrices, une du NIST et une qui s'est passée au Texas. Ça, c'était en 93. Au passage, la même année a été proposée cette notion de Feshbach résonance, de résonance Feshbach, qui viendra plus tard dans le cours. C'est ce type de phénomène qui permet de manipuler les interactions entre atomes. Et c'est cette année 93 où ça a été proposé pour la première fois dans le contexte d'atomes froids, sachant que, quand même historiquement, c'était déjà présent dans un papier d'un spectroscopiste, Bill Stolle, en 1976. Mais dans le contexte d'atomes froids, c'est vraiment ce papier-là où ça a été indiqué. En 98, on en revient à ce dont Jean a fait l'honneur de rappeler concernant le laboratoire Mécoton, c'est la première observation effectivement de molécules froides réelles, c'est-à-dire où l'on excite par photoassociation donc une molécule dans l'état excité, et les détails particuliers de ces courbes moléculaires font que la probabilité que la molécule excitée se désexcite dans l'état fondamental était forte. Et donc, en regardant il se trouve que lorsque l'on regardait le temps de survivance, l'idée c'est qu'on ionisait cette chose-là, vous voyez, l'idée c'était de dire on crée un état ici, on voulait l'ioniser. Voilà, c'était ça l'idée. Et en fait, ce dont on s'aperçut, c'est que ce n'était pas ça qu'on ionisait. Ce qu'on ionisait, c'était ce qui était là. En regardant le temps de survie du signal d'ion, on s'aperçut qu'en fait, le signal survivait pendant beaucoup trop longtemps. Ce n'était pas normal. Et là, on a eu un brainstorming au labo, et puis on est tombé sur fait de l'interprétation qui est effectivement, ce sont bien des molécules dans l'état fondamental, froides, qui sont observées, et c'était ça vraiment le résultat fantastique, et je ne vous cache pas que cette année-là a été extraordinairement excitante. 5 ans plus tard, en fait, le système, les recherches ont énormément évolué, et là, en fait, j'ai ici mis tout un tas de papiers qui concernent cette transition entre entre BEC et comment dire le je vais y aller. où l'on prenait donc des atomes, par exemple, on prenait les atomes de fermions et on les associait pour en faire des molécules. On faisait, c'est à ça que je voulais arriver, où on arrivait à former le premier condensat de molécules, et donc où l'on voit vraiment apparaître cette idée que l'on peut vraiment passer progressivement d'une paire d'atomes à grande distance à des molécules très très faiblement liées. Et ceci, en plus, sans passer par les états excités de la molécule. Avant ça, il y avait quelque chose qui avait commencé à s'appeler superchemistry ici. C'est donc justement lorsqu'on commençait à voir dans un état condensé, dans la condensation de Born-Einstein, justement cette cohérence entre les atomes qui existaient et les molécules. Donc ça, c'était en 2003. Un peu plus tard, ça s'est prolongé, c'est pour ça que je dis c'est à peu près tous les 5 ans, et évidemment, le mot que je cherchais, vous l'aurez tous compris, c'était celui-là, évidemment, qui ne me revenait pas. Mais donc, il y a eu énormément de travaux ici, et donc des travaux qui ont été faits ici à Paris en même temps. En 2008, 5 ans plus tard, eh bien, on a réussi à être capable de ces molécules dans l'état fondamental. Elles étaient dans plein de niveaux vibrationnels internes, donc elles avaient beaucoup d'énergie interne. Eh bien, on a réussi, par un système laser, et au laboratoire à Mécoton également, à vraiment rassembler la population de toutes ces molécules dans l'état vibrationnel le plus bas. Et là, ça a été un progrès encore important. Et dans le même temps, ça a été fait au GILA, qui est vraiment un des groupes majeurs de ce domaine, et où ils ont fait la même chose, justement, avec une molécule polaire, KRB, une molécule qui a un moment dipolaire électrique. Et j'ai rappelé aussi ici, ce sera évidemment dans les diapos, également quelques autres références qui dataient un peu avant, mais qui formaient ces molécules dans l'état fondamental, mais de façon, on va dire, moins contrôlée. En 2018, en fait, ce qui s'est passé, donc là j'ai sauté 10 ans, on a réussi à faire, à refroidir par laser les molécules, comme les atomes. Pas n'importe quelle molécule. Il fallait que ce soit des molécules qui se comportent comme des atomes. Sinon, ça ne marche pas. Alors, je passe sur les détails. Donc, je veux dire par là, le refroidissement laser des molécules est, de très loin, pas du tout une méthode universelle, mais il y a quelques spécimens moléculaires pour lesquels ça marche super bien, et les molécules comme CAF, SRF, se comportent, à bien des égards, comme des atomes, et en tout cas vis-à-vis des transitions optiques. Et c'est pour ça que l'on est arrivé à refroidir par laser les molécules, et qui représentent maintenant un préliminaire pour effectivement arriver à un condensat de molécules dans leur état fondamental. Ce n'est pas la seule voie, mais c'est une voie vraiment intéressante. Pour créer des molécules froides, comment est-ce que l'on fait ? Ici, j'ai rassemblé avec quelques schémas les méthodes un peu populaires. Il y a celle qui a été mentionnée par Jean tout à l'heure, la photoassociation, donc qui consiste à prendre deux atomes en collision. Alors, je suis content parce que vraiment, je n'ai pas besoin de réexpliquer ce que sont ces courbes, ces fonctions d'onde, etc. Vraiment, ça m'aide énormément. Et donc, où l'on voit exactement les mêmes objets que vous avez vus tout à l'heure dans le cours de Jean, ici, avec cette fonction d'onde ici qui décrit un état d'énergie quasi nul, hein, et où il y a la possibilité d'absorber un photon ici. Et si l'on choisit bien la fréquence, on peut atteindre un état excité, ici, vibrationnel, d'une molécule proche de la limite dissociation. Et si la nature est gentille avec nous, eh bien, il y a la complexité de ces potentiels moléculaires, qui est donc la partie cachée de ce matin, hein, c'est-à-dire c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de ce mur répulsif ou dans cette partie molle. Donc cette partie molle peut être extrêmement variée, et parmi ces variations, il peut y avoir tout un tas de choses ici qui font que ça favorise la désexcitation vers les états fondamentaux. Et c'est pour ça, comme je vous l'ai dit, que l'on arrivait, avec ce type de méthode, à créer des molécules en état fondamental. Une autre méthode qui est venue, en termes de contrôle, qui est devenue bien plus populaire, est justement celle qui consiste à s'appuyer sur ces fameuses raisons de Feshbach. Alors, je le dis juste ici, je ne veux pas prétendre que vous comprendrez, mais typiquement, l'idée est de s'arranger pour que l'état d'énergie cinétique initiale ici de collision des deux atomes se retrouve en coïncidence avec un état lié de la molécule qui se trouve dans une autre courbe de potentiel. Et ceci peut s'ajuster avec un champ magnétique, c'est l'article que je vous ai mentionné tout à l'heure, et quand on arrive à faire ça, en fait, on arrive à mélanger cet état-là avec cet état-là. Et si on fait ça de manière suffisamment intelligente, eh bien, on arrive à créer des molécules dans cet état-là et les garder. Une fois qu'on les garde dans cet état-là, elles sont donc liées, mais elles sont très excitées. Et donc l'idée, c'est qu'il faut maintenant prendre cette population et l'amener dans l'état fondamental, parce qu'évidemment, on veut un système qui a le moins possible d'énergie interne, parce qu'évidemment, deux molécules qui auront plein d'énergie interne, elles vont arriver, ça va être une explosion, on ne verra plus rien. Donc on veut vraiment qu'il n'y ait plus d'énergie interne. Et pour ça, on utilise à ce moment-là une relaxation à partir de cet état très excité, en passant par un état virtuel ici, qui est un état noir, vers l'état fondamental, par une méthode qui est bien connue, qui s'appelle STIRAP, qui consiste à faire se recouvrir deux faisceaux laser, ici, dépendant du temps, donc, et à les faire se recouvrir de sorte à assurer un transfert complet entre la population qu'il y avait ici et pour l'emmener dans l'état fondamental. Donc c'est ça un petit peu la boîte à outils des personnes qui voudront former des molécules froides, ce sont ces méthodes-là. Alors, je ne vais pas aller plus loin que ça, parce qu'évidemment, il faudrait un cours, enfin, plutôt une journée entière pour parler de tout ça. Simplement, je vais parler de quelques résultats. Je vous ai parlé de ces molécules dipolaires qui sont censées avoir des interactions anisotropes. Est-ce qu'on les voit, ces interactions anisotropes ? Donc, voilà des gens qui ont formé ces molécules de KRB. Ils ont su les mettre dans un gaz ultra-froid. Et comme ces molécules ont un moment dipolaire électrique, ils ont mis un champ électrique. Et ils se sont arrangés pour que les molécules, dans l'arrangement expérimental, ça se fait dans des pièges, dans des réseaux optiques à 1D ou 2D, ils s'arrangent pour que les molécules, en fait, soient alignées comme ça ou comme ça. Et en fait, ils sont capables, et c'est le sens de ces graphes qui sont ici, selon que les molécules, par exemple ici, vous voyez le taux de collision, c'est-à-dire le taux de perte de molécules, en fonction du moment dipolaire, autrement dit en fonction de l'intensité du champ électrique. Plus le champ électrique est fort, plus le moment dipolaire s'aligne le long du champ. Voyez ? Et donc là, ce que l'on voit, c'est que si les molécules sont alignées dans une configuration favorable, celle-ci, eh bien évidemment, comme ici on a plus ou moins, si les molécules arrivent comme ça, eh bien, elles vont se repousser parce que les charges se repoussent. Voyez ? Et donc il y aura beaucoup moins de pertes. Et donc c'est la courbe noire. Au contraire, la courbe rouge, si les molécules arrivent comme ça, bah, c'est tout le contraire. Ici, j'ai moins plus, ici, j'ai moins plus. Au contraire, elles vont avoir qu'une envie, c'est de venir et rentrer en collision. Donc, on a déjà ici une petite idée de voir qu'avec un champ électrique, eh bien, on s'aperçoit que l'on privilégie une interaction par rapport à l'autre et on a déjà une possibilité de contrôle de la survie de cet échantillon de molécules froides. Et évidemment, de façon donc anisotrope, comme je viens de l'expliquer. Donc ça, c'était vraiment un très joli résultat. Simplement, on a un problème. Plusieurs groupes dans le monde, maintenant, sont capables de faire des échantillons de molécules froides, la plupart du temps avec des dimères alcalins. Donc la liste, c'est... Ben, je vous donnerai la liste juste après, d'ailleurs. Et ici, je mets NARB parce qu'il se trouve qu'on associe à ce travail avec des collègues de Hong Kong. Et en fait, ce qu'il se passe, c'est que parmi ces dimères alcalins, vous prenez ces alcalins, hein, de lithium à césium, vous les assemblez entre eux, et parmi eux, il y en a certains qui ont une mauvaise tendance, qui est de faire une réaction chimique. KRB, typiquement, quand il s'approche, eh bien, ça peut faire K2 plus RB2. Donc, c'est difficile de se dire, je vais faire un échantillon de molécules froides qui va rester tranquille comme ça. Donc, les gens se sont dit, bah, allons voir ces espèces moléculaires qui ne font pas ça. NARB est un exemple. Ce n'est pas le seul. Hein, NAK également, et également RBCS, pour prendre les trois cas les plus, disons, populaires. Eh bien, quand ils arrivent et qu'elles sont dans leur étape fondamentale absolue, vibrationnelles, rotationnelles, n'est-ce pas ? Eh bien, elles s'approchent, elles ne réagissent pas. Elles ne sont censées faire que des collisions élastiques, parce que c'est l'état d'énergie le plus bas. Et pourtant, tous ces gens qui fondaient tellement d'espoir dans ces espèces, eh bien, qu'est-ce qu'ils voient ici ? C'est qu'ils regardent le temps de survie et leur nombre de molécules dépendant du temps. Eh bien, au bout de... Alors, 100 millisecondes, c'est déjà beaucoup, mais ça devrait être beaucoup plus, n'est-ce pas ? Eh bien, les molécules disparaissent quand même. Et on se demande bien pourquoi. Et là, il y a un vrai problème. Et ça signifie quoi ? Alors, les interprétations qui ont été proposées, c'est toujours pas résolu. Hein, c'est vraiment un très gros sujet de recherche actuellement. C'est de dire que ben, vous avez deux molécules qui arrivent comme ça. Elles s'approchent. Et en fait, il se trouve que l'espace des phases, lorsque ces quatre particules sont proches l'une de l'autre, l'espace des phases est tel que ces molécules ont tendance à rester longtemps. Et pendant qu'elles restent, il peut leur arriver tout un tas de choses. C'est ça le problème. Qu'est-ce qui leur arrive, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles restent beaucoup trop longtemps ici. Donc c'est curieux parce que ces molécules sont en interaction de Van der Waals, mais pourtant il n'y a pas de cette réflexion quantique, précisément. Alors pourquoi il n'y a pas de réflexion quantique ? Eh bien, c'est parce que c'est un problème qui n'est pas du tout monocanal. Mais alors, pas du tout. Alors pourquoi ? Et donc, c'est ce qui a pris le nom de sticky collisions. Également, ça vient d'un, le mot vient d'un collègue, John Bone, du GILA également. En fait, voilà, ça c'était juste pour dire qu'en fait, pour d'autres espèces, on observe la même chose, hein, en passant. Donc, que ce soit au MIT avec NALI, RBCS à Innsbruck ou alors à Durham, et NAK, il y a plusieurs expériences, ici c'est celle du MIT, mais également à Hanovre et Garching. Donc, dans tout ça, on observe toujours la même limitation de durée de vie de ces échantillons moléculaires. Alors, comme je le disais, pourquoi c'est pas du tout monocanal ? Ce schéma-là illustre cela. Alors bon, là, c'est illustré pour atome-molécule, mais en vérité, ça vaut pour molécule-molécule, donc peu importe. Hein. Mais c'est l'idée de dire que si vous arrivez par l'état noir ici, qui est l'état absolument fondamental, eh bien, vous avez au-dessus tous les états qui sont associés au fait que la molécule est dans un autre état vibrationnel ou rotationnel. Voyez. Et alors, si vous tracez les courbes de potentiel correspondantes, eh bien, elles sont attractives aussi, et elles vont toutes avoir tendance à plonger comme ça, voyez. Comme ça. Ce qui fait que si je prends le trait pointillé ici, qui est mon état initial, à grande distance, ben, tout se passe bien, on a une interaction à grande distance, tout se passe très bien. Mais quand il commence à se rapprocher un peu, on voit que finalement la dynamique associée à tous ces états, eh bien, il va commencer à l'explorer. Parce qu'il va commencer à explorer ici une densité d'états qui va être de plus en plus considérable. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout monovoie, il y a plein de voies. Et donc, il y a tout un tas de raisons pour que la densité de probabilité de l'état initial se redistribue, si les interactions sont suffisantes, d'une façon extraordinairement compliquée ici. Et donc, ben, il n'y a pas moyen. Effectivement, si la densité de probabilité se redistribue, ben, l'approche semi-classique, ça veut dire que j'ai tendance à rester plus longtemps, quoi. Et si je reste plus longtemps, et ben dans mon expérience, il peut arriver n'importe quoi. Une collision avec une troisième particule, un photon qui arrive, etc. Et c'est ces circonstances-là que les collègues expérimentateurs essayent de trouver en ce moment, parce que, en fait, on ne sait même pas vraiment caractériser en fait, le système de quatre atomes. Vous voyez, vous avez deux molécules bien liées, vous les approchez ensemble à énergie quasi nulle. Elles ont normalement un puits de potentiel d'interaction, forcément, comme deux atomes. Hein. Mais on est vraiment au bord de cette espèce d'immense vallée à plusieurs dimensions. Quoi. Et là, il se passe quelque chose. On a une mer, on a vraiment quatre particules qui interagissent d'une façon qui est extraordinairement difficile à décrire. C'est vraiment un exemple typique d'un système à petit nombre de corps qui est pour l'instant totalement vierge, j'ai envie de dire. Et donc ici, ils ont parlé d'aspect statistique, c'est-à-dire qu'à partir en faisant la statistique des niveaux qu'il peut y avoir là, et en supposant que tous les niveaux étaient couplés, eh bien, ils ont fait des modèles pour dire qu'effectivement, il semblerait que le temps de résidence, si vous voulez, des particules à courte distance soit beaucoup plus long. Seulement, ça peut varier par des ordres de grandeur, parce que finalement, on ne sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur. On peut prendre un modèle de couplage statistique, mais ce n'est peut-être pas la bonne idée. Alors, il y a quand même une expérience qui a été faite, à laquelle on a eu la chance d'être associé aussi. C'était dans le groupe de Kankwani à Harvard. Et elle a regardé ces molécules KRB-KRB. Alors, effectivement, il y a une voie de réaction ici, comme je vous l'ai dit. Et comme on l'a dit, ça passe par un complexe intermédiaire ici, comme on l'a dit. Et son idée, c'est de dire, voyons un petit peu ce qui se passe. Donc, elle a été capable d'éclairer donc cet échantillon avec un laser UV et voir un petit peu les produits. Alors les produits, comme le montre ce spectre de masse, j'ai pas montré. Oui, voilà, comme le montre le spectre de masse, on obtient du K2+, du RB2+. Ça c'est normal puisque comme on a du K2 et du RB2, ben, c'est simplement la preuve. Oui, la réaction chimique s'est bien passée. Ok, on détecte les produits, parfait. Mais quand elle fait varier la longueur d'onde de ce laser ici, eh bien à un moment donné, soudain ici, ce que l'on voit apparaître, c'est des ions triatomiques. Et si on commence, on voit même des ions tétraatomiques. Et ça, c'est un truc incroyable, parce que voilà deux molécules bien solides, etc., qui s'approchent, et il se passe quelque chose ici, de telle sorte qu'à un moment donné, elles se comportent véritablement comme une molécule triatomique ou tétraatomique. Vous voyez ? Ce qui ne va pas de soi, parce que j'ai quand même deux molécules liées. Enfin, bon, vous voyez, on ne récupère pas un tétramère bien lié dans l'état fondamental. On a quelque chose qui navigue en surface de cette courbe de potentiel. Donc, ce n'est pas clair du tout ce qui se passe. Mais ceci montre que, en effet, on arrive d'une façon ou d'une autre à créer un système qui est vraiment un système moléculaire et dont la preuve est donnée par le fait qu'on arrive à l'ioniser. Mais on l'arrive à l'ioniser, ça ne veut pas dire qu'on sait pour autant quelle était la structure de cet état initial. Donc ça, j'ai trouvé que c'était une expérience assez formidable. Alors, évidemment, on se dit, puisque c'est ça, essayons d'éviter ces pertes. C'est ça l'idée, puisque c'est ça qui nous empêche, qui nous fait perdre des molécules, essayons d'éviter de les perdre. Comment est-ce qu'on peut faire ? Alors, c'est là où les gens ont fait preuve vraiment d'ingéniosité. Alors, il y a deux solutions. Soit vous mettez les molécules, parce qu'elles ont une polarisabilité, dans le réseau optique, et elles sont là. Et puis, vous arrangez pour que le réseau optique soit suffisamment haut, donc elles n'interagissent plus, vous gardez vos molécules, voilà. Mais bon, c'est statique, c'est pas terrible. Ou alors, qu'est-ce que l'on fait ? On a un gaz de molécules et on s'arrange, voir si on peut, par hasard, manipuler leur interaction et s'arranger pour que ces interactions soient répulsives. Et ça, quand je vous parlais de contrôle de ces systèmes, à mon avis, c'est vraiment quelque chose de formidable parce que vous avez une connaissance qui est tellement fine de ces systèmes que vous pouvez imaginer contrôler ces interactions par différents moyens. Différents moyens, qu'est-ce qu'on a à notre disposition ? Des champs externes, bien sûr. Alors, comment est-ce que ça va se passer ? Donc là, je vais passer rapidement trois possibilités. La première qui a été proposée, c'est d'utiliser des champs électriques. Si l'on prend des champs électriques suffisamment forts, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était le petit schéma qui est ici, on arrive à orienter les molécules d'une manière ou d'une autre le long du champ électrique. Et lorsqu'on fait un diagramme Stark dans ce cas-là, et si l'on prend des champs, vous voyez, je ne sais pas si vous avez de tels champs électriques au laboratoire, mais enfin, c'est déjà des circonstances qui sont un peu extrêmes. Lorsque l'on regarde les diagrammes Stark, on s'aperçoit que lorsque l'on a deux molécules qui s'approchent dans des niveaux bien définis, on voit que certains niveaux se croisent à des champs bien précis. Voyez ? Et si on résout l'Hamiltonien en présence du champ électrique, on s'aperçoit que ces niveaux, en fonction du champ électrique, finissent par s'éviter. Voyez ? C'est un diagramme Stark. Et si l'on translate ça, cette interaction, si on regarde cette interaction en fonction de la distance entre les molécules, on s'aperçoit que selon la valeur du champ électrique, soit on aura une interaction attractive, mais l'on sera possible de créer en fait des interactions répulsives. Donc on change complètement ce potentiel de Van der Waals. Évidemment, il y a un terme supplémentaire hamiltonien qui est le champ électrique, et cette interaction rentre en compétition avec l'interaction de Van der Waals et est capable de faire apparaître des puits, des barrières de répulsive ici. Et qui font que si c'est ça, les molécules elles vont plus s'approcher. Et donc on est tranquille. Et donc pour ça on peut le voir en regardant la variation, quand les expérimentateurs font ça, la variation du taux de collision, donc de perte de molécules, en fonction du champ électrique. Et ce que l'on voit, c'est que ce taux de collision, vous voyez, il est capable de varier de trois ordres de grandeur. Et donc si l'on est capable d'ajuster le champ électrique de façon suffisamment fine, on peut se retrouver là, ou là. Vous voyez ? Et ce qui est formidable, c'est que un collègue du laboratoire, Goulven, Kemener, qui a travaillé longtemps avec cette équipe, avec un modèle sans paramètre de collision, sans paramètre ajustable, c'est la ligne, il est capable de reproduire ceci. Donc, je veux dire, c'est une réussite assez formidable. Évidemment, vous devez en payer le prix, parce que, c'est quand même 12 kV par centimètre. Et c'était une expérience qui a d'abord été faite à des réseaux quasi indés. Et ensuite, c'est maintenant fait en 3D, depuis cette année, et ce qui fait qu'ils ont déjà commencé à avoir un peu de refroidissement évaporatif avec cette méthode-là. Ce qui est donc le prochain pas pour obtenir, un échantillon suffisamment froid. Alors, ça, c'est bien, mais c'est cher. Tout le monde n'est pas capable de faire ça. Enfin, c'est cher, c'est dur. Alors, une autre possibilité qui a été proposée, c'est d'utiliser des champs micro-ondes. En fait, si vous utilisez des champs micro-ondes, vous avez ici deux molécules, et ça, c'est les niveaux rotationnels de la molécule. Donc, les molécules sont dans leur niveau vibrationnel le plus bas et dans leur niveau rotationnel le plus bas. Et juste au-dessus, vous avez le niveau d'énergie qui correspond à une molécule dans J égale 0 et l'autre dans J égale 1. Ils sont séparés par cette énergie. Et supposez maintenant que vous couplez ce niveau-là et ce niveau-là par un champ micro-ondes. On retrouve quelque chose qui est très bien connu, évidemment, dans la région, l'atome habillé, par un champ électromagnétique. Donc là, on fait la même chose, ce sont des états habillés par le champ électromagnétique. Évidemment, le champ micro-ondes, on le prend parce qu'il correspond, il est de l'ordre de grandeur de cet écart d'énergie. Si on habille cet état-là par un champ micro-ondes, on se retrouve avec les courbes rouges ici, n'est-ce pas? Et ces courbes rouges, eh bien, vont avoir, c'est-à-dire hamiltonien plus le champ électromagnétique, eh bien, à cause de l'interaction liée au champ magnétique, vont avoir ici un croisement évité. Croisement évité signifie, eh bien, si je démarre ma collision sur cette courbe-là, eh bien, l'interaction électromagnétique va mélanger l'état noir ici avec l'état noir répulsif ici, ce qui fait qu'au total, mon système va suivre ça, hop, et il va repartir. Donc, il ne pourra pas aller aux courtes distances. Voilà. Donc, on arrive, effectivement, de cette façon-là, à nouveau, on rajoute un terme hamiltonien qui rentre en compétition avec l'interaction de Van der Waals si on est capable de créer donc, ces potentiels répulsifs. Alors, ce qui est intéressant ici, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait ça, il n'y a pas d'émission spontanée ici, parce qu'évidemment, l'émission spontanée entre ces deux états est extrêmement faible. Donc, ça ne gêne pas ce phénomène d'écrantage. Et le seul point technique ici, c'est qu'on a besoin, pour des raisons de règles de sélection, pour que ça marche, on a besoin de polarisation circulaire ici. Et ce qui n'est pas forcément facile à faire avec des champs micro-ondes. Donc, ça, c'est un peu la limitation technique. Néanmoins, ça vient d'être observé cette année à nouveau, là, et on le voit ici, hein, en appliquant ici, c'est la courbe bleue, si l'on n'applique pas de rayonnement, eh bien voilà le taux de collision, cette fois-ci il s'agit de molécules de CAF, donc des molécules polaires, des molécules qui sont quasi-atomiques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, qui peuvent être refroidies par laser. Hein, le trait gris, là, bah, c'est le taux de collision, ou si vous préférez, le temps de survie des molécules, hein, puisque ici, ils ont fait ça avec des molécules dans des pinces optiques, en fait. Donc il y a deux molécules ici. Donc ils voient le temps de survie des molécules en fonction du temps d'exposition du laser. Donc s'il n'y a pas de temps d'exposition du laser, voilà le temps de survie des molécules. S'il y a un laser qui est là, bah, vous voyez que les molécules survivent bien plus longtemps. Et donc qui est une preuve du fait qu'effectivement, un tel potentiel répulsif a pu être créé, puisque les interactions sont supprimées. La troisième étape, et c'est sur laquelle c'est là-dessus que je vais vous présenter quelques résultats, c'est ce qu'on appelle le optical shielding. Parce qu'évidemment, on a pensé au champ électrique, on a pensé au champ micro-ondes, mais un champ optique, c'est encore mieux, parce qu'un laser, on sait vraiment bien s'en servir. Enfin, moi non, mais vous, beaucoup d'entre vous ici, oui. Et donc, l'idée, c'est de partir de cette idée donc, de faire cet écrantage optique, optical shielding, c'est comme ça que c'était resté dans la littérature. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est une idée qui est née il y a très longtemps, à nouveau, donc dans le groupe de John Weiner. Vous reconnaissez les noms de John Weiner, Paul Julien et Vanderlei-Bagnato également, et également d'autres gens autour du NIST à l'époque, ça s'est passé pas mal autour du NIST. Et ça a été fait entre deux atomes dans l'état fondamental. Et donc, le schéma est le suivant, c'est très simple, hein. Vous avez deux atomes qui s'approchent. Alors là, je l'ai mis parce qu'on a fait un calcul pour deux atomes différents, mais ça marche aussi bien pour deux atomes pareils, donc peu importe dans un premier temps. Vous avez deux atomes qui s'approchent ici, donc on retrouve nos potentiels, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein. Et ce que l'on fait, eh bien, c'est que l'on prend ici un photon, ici, avec une fréquence qui est décalée vers le bleu par rapport à une transition atomique. Et quand on fait ça, et quand on regarde les interactions entre les atomes, on s'aperçoit qu'il y a, en effet, des courbes répulsives là-haut. Eh bien, si l'on pense photon décalé vers le bleu, eh bien, on va coupler cette courbe-là et cette courbe-là. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que eh bien, les atomes vont progresser ici, et ils vont repartir en arrière, si l'on fait ce couplage. Vous voyez, c'est la même idée. Sauf qu'au lieu que ce soit avec un champ micro-ondes, hein, c'est avec un champ optique. Et donc, on ne s'adresse plus... Évidemment, dans le cas des atomes, évidemment, il n'y a pas de niveau rotationnel et vibrationnel, mais je veux dire, en termes de quantité d'énergie ici, hein, on parle d'une fraction d'électron-volt, alors qu'on parlait évidemment de quelques de micro-ondes avant. Voilà. Donc ça, c'est une vision semi-classique, hein, ce que je vous ai mis là, mais je pense qu'intuitivement, c'est très, très, très utile pour comprendre ce qu'il se passe. Alors, si on regarde ça un tout petit peu plus dans le détail, ce que je mets ici, c'est le même schéma. Et dans la vision habillée, ben voilà ce que l'on a. Dans la vision habillée, on a notre état initial, on a notre état répulsif. Ici, il se passe une interaction, n'est-ce pas, hein, et qui fait qu'au total, il va y avoir un mélange entre cet état-là et cet état-là. Et donc, les deux atomes vont repartir et ne subiront pas d'interaction. Alors, ça a été démontré pour les atomes identiques. Ça n'a jamais été démontré pour des atomes non identiques. Et c'est une proposition que l'on fait, que ça puisse être fait. Alors, la dernière image qui illustre ça, c'est cette vision semi-classique, hein, où l'on a les différentes voies possibles que les atomes peuvent suivre, avec les différentes probabilités, ici, et qui montre que si on fait les choses bien, on arrive à rendre la probabilité de passage ici à zéro, ce qui fait que tout est réfléchi. Ça, c'est les arguments semi-classiques. Alors, dans la vraie vie, ça donne ça. C'est-à-dire, voilà dans le cas de NA2, qui était le système pour lequel le 2 est mal placé ici, qui est pour lequel le système avait été fait. Et l'on voit qu'il fallait, pour des raisons de symétrie, il fallait à nouveau une polarisation circulaire ici pour avoir un vrai croisement évité et donc qui empêche que les atomes rentrent en collision et aillent à l'intérieur. Et ici, dans le cas hétéronucléaire, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a des conditions de symétrie qui ne sont plus, hein, on n'a plus la symétrie d'échange des atomes, donc c'est un petit peu plus compliqué, mais on le voit toujours ici, dans cette zone-là, la possibilité de coupler à des états répulsifs qui viennent de l'état excité et donc de diminuer le taux de collision ici si l'on choisit correctement les paramètres du champ électromagnétique. Voilà. Donc ça a été prouvé. Alors évidemment, quand ça a été prouvé dans les années 90-95, c'était encore avec des mottes. Donc la dispersion vitesse était encore assez grande et donc il y a eu une tendance à voir qu'effectivement le taux de collision se diminuait, mais c'est des choses qui mériteraient d'être faites à des températures ultra froides, telles qu'on sait les faire maintenant. Bon, personne ne s'est encore jamais lancé là-dedans, mais c'est quelque chose qui pourrait être fait. Donc je dirais, il y a eu une tendance, ça a été prouvé, on a montré que ça ne marchait pas bien, parce que l'émission spontanée jouait un rôle important, etc. Mais en fait, on a prouvé, en regardant un peu mieux les modèles, qu'on pouvait trouver des conditions pour lesquelles l'émission spontanée ne joue pas un si grand rôle. Ça dépend beaucoup du choix de l'état répulsif. Et donc, on s'est dit, on va faire la même chose pour les molécules. A priori, vous voyez, rien ne m'interdit de refaire un schéma identique. J'ai deux molécules qui s'approchent dans l'état fondamental ici, comme tout à l'heure, dans leur état rotationnel le plus bas, ici. Elles ont une interaction de Van der Waals. Et puis, est-ce que je peux trouver, cette fois-ci dans le spectre excité de la molécule, puisque, comme je l'ai dit, je prends maintenant un photon optique, donc je vais exciter électroniquement l'une des deux molécules, appelons l'état B, petit b, peu importe ce qu'il signifie pour l'instant. Et l'idée, c'est est-ce que si je regarde l'interaction entre une molécule dans l'état fondamental et une molécule dans l'état excité, est-ce que j'ai la possibilité de trouver des interactions qui sont répulsives, ici, qui feraient que, si maintenant j'applique ce photon, eh bien je couplerai ces deux états et j'arriverai donc effectivement à ce que les molécules ne s'approchent pas. Il faut faire le calcul. Et c'est là où le naturel de physicien moléculaire revient au galop, le voilà. Donc voilà ce qu'est une vraie molécule, c'est-à-dire la partie longue portée, comme on a vu tout à l'heure, la partie molle, qui est tout ce qui est à l'intérieur, mais vous voyez que la partie molle, elle peut, si dans l'état fondamental elle est vraiment molle, là elle est vraiment super bizarre, dans tout ce qui se passe ici, vous voyez, elle peut même être bizarre, même très loin, peu importe. Toujours est-il qu'ici, ce schéma veut démontrer que dans le cas de NARB, eh bien, lorsque l'on prend ce photon qui est bleu là, vous voyez, qui va là, en fait, il arrive. Pardon, excusez-moi, c'est le photon violet, je me suis trompé, ce n'est pas le photon bleu. Le photon violet qui est là, qui n'est pas violet du tout d'ailleurs, mais la flèche, vous voyez, il se trouve que l'on voit que si ma molécule est en état fondamental, il se trouve qu'on a ici, c'est super bien, il y a un état qui est super bien aligné ici et pour lequel on imagine qu'il serait très facile à exciter. Ils sont vraiment localisés au même endroit. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une transition singlet-triplet. Donc, c'est une transition interdite. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette transition interdite, cet état triplet, par la magie de la nature, il est couplé à un état singlet. Ce qui fait qu'en fait, celui-là, il n'est pas purement triplet, il est un tout petit peu singlet. Donc, cette transition est autorisée juste ce qu'il faut. On retrouve la même chose dans le strontium. Je veux dire, quand on fait la transition interdite dans le strontium, singlet S, triple P, c'est parce qu'il y a un petit peu de mélange de singlet P qui est bien au-dessus, qui permet en fait d'exciter la transition. D'accord ? Donc, au total, c'est la même chose qu'on retrouve ici en physique moléculaire. Ce sont des concepts qui sont tout à fait identiques à ceux de la physique atomique. Et donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va donc tenter de coupler la molécule en état fondamental à cet état-là. C'est de la spectroscopie moléculaire, c'est connu, on mesure, on a les lasers qu'il faut, tout va bien. Donc c'est très bien comme ça. Les autres flèches, c'était simplement pour dire que ce sont les autres lasers qui sont présents dans l'expérience et l'on doit s'assurer que les autres lasers présents dans l'expérience ne viennent pas, eux aussi, détruire notre molécule en absorbant des photons sans qu'on le veuille, quoi. Et là, les flèches montrent que là où pointent les autres flèches bleues épaisses, elles pointent, disons, nulle part, donc on est tranquille, les autres photons ne sont pas susceptibles de détruire nos molécules. Voilà. Et donc, alors, quand je dis ça, l'expérience n'a pas encore été faite, l'expérience d'écrantage, je veux dire. Mais c'est l'expérience de sodium-rubidium telle qu'elle est conduite chez nos collègues de Hong Kong qui dresse un peu ce paysage. Ces calculs, eh bien, c'est des calculs que l'on fait de longue date avec ma collègue Mireille Aymard, qui est maintenant retraitée, et qu'on a fait pendant des dizaines d'années. Alors, lorsque l'on fait ça, on prend ces données pour sodium-rubidium, et puis après, on fait un développement multipolaire dont vous avez déjà entendu parler, c'est-à-dire j'ai une molécule de sodium-rubidium, j'ai une molécule de sodium-rubidium, elle est dans G égale 0, elle est dans G égale 0, je fais un développement multipolaire, c'est-à-dire qu'il faut que je m'arrange pour calculer le C6 entre ces deux molécules, donc ça, on sait le faire, avec une méthodologie qui est vraiment tout assez identique à celle du développement multipolaire entre deux atomes. Et quand on fait ça, on trouve ce genre de graphe. Là, vous voyez l'interaction à grande distance entre deux molécules qui sont en même état. Ici, les deux molécules sont dans J égale 1, vous voyez. Et ici, l'une est dans J égale 0 et l'autre dans J égale 2. Pour des raisons de parité globale, puisque ce sont deux molécules identiques, on n'a pas toutes les combinaisons de J ici, pour des raisons de parité globale de la fonction Monod. Et on fait la même chose lorsque, vous voyez, la molécule est l'une dans l'état fondamental et l'autre dans l'état B. Alors, ça change un peu le C6, parce qu'évidemment, l'état B, il n'a pas la même forme que l'état X. Donc sa polarisabilité induite n'est pas la même, donc le C6 n'est pas le même. Vous voyez ? Donc ça change. On fait ces calculs-là, c'est des calculs de structure que l'on sait faire, et on arrive ainsi à dériver toutes ces courbes de potentiel. Et vous voyez que ça commence à sentir bon, puisque ici, on a quelques états répulsifs. Et donc voyons si on peut faire quelque chose dans ce domaine-là. Donc ça, c'est l'image non habillée, les deux états à grande distance, les interactions à grande distance, entre mes deux molécules en état fondamental ou lorsque l'une est dans l'état excité, et je passe à la vision habillée, où l'on reconnaît donc mes deux molécules dans l'état fondamental qui arrivent, et puis parce que j'ai choisi mon laser comme il faut, eh bien, il se trouve que j'arrive à coupler avec ces états où une des molécules est excitée, et j'arrive, en choisissant correctement les paramètres du laser, à créer ces croisements évités, ce qui fait qu'au final, lorsque j'arrive là, eh bien, j'ai une collision et ma collision n'a pas lieu, c'est-à-dire que je repars en arrière. Donc ça, c'est pour la polarisation linéaire. Ça, c'est en polarisation circulaire. Ça change les règles de sélection, c'est tout ce que ça fait. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que l'on montre, c'est que c'est robuste parce que c'est valable dans les deux polarisations, donc c'est toujours ça de pris, il ne faut pas s'en priver. Voyez. Et donc voilà de quelle manière on peut arriver à ainsi modifier les interactions à grande distance entre les deux molécules en couplant avec avec un champ électromagnétique. Alors, comment est-ce qu'on résout ça ? Là, je vais certainement pas le faire, mais enfin, essentiellement, on écrit l'Hamiltonien, qui est l'Hamiltonien ici des deux molécules, avec leur énergie cinétique, leur moment angulaire, la rotation de chacune des deux molécules, leur interaction mutuelle, et puis l'interaction avec l'Hamiltonien du champ électromagnétique, et ça, c'est l'Hamiltonien d'interaction molécule-champ. Alors, je ne vais pas développer ça, c'est des formes ultra-conventionnelles, et simplement, ici, c'est pour montrer que voilà le genre d'état quantique que l'on regarde ici, où l'on a les différents nombres quantiques qui caractérisent la molécule, la parité globale, et après, on recouple les moments angulaires de rotation de chacune des deux molécules. Ici, il y a la rotation des deux molécules entre elles, cette rotation mécanique, et tout ça nous donne un moment angulaire total avec une projection et habillé par le photon. Et on symétrise ça correctement. Donc ça, c'est une manière pour vous dire que tout ça repose sur un formalisme quantique tout à fait établi. Eh bien, on fait nos calculs. On fait nos calculs de collision, on résout l'équation Schrödinger, et on cherche, alors c'est des choses qui viendront, je crois, un peu plus tard dans le cours, lorsque l'on calculera la matrice S, la matrice T, c'est-à-dire, autrement dit, les différentes amplitudes de diffusion. Finalement, on calcule les amplitudes de diffusion, et donc les probabilités de réaction de ces deux molécules, c'est-à-dire, lorsque ces molécules approchent, qu'est-ce qu'elles font ? Si je reprends mon schéma, juste avant, lorsqu'elles vont s'approcher, est-ce qu'elles vont avoir tendance à repartir en arrière ? Est-ce qu'elles vont avoir tendance à passer un petit peu de temps ici et hop, à ressortir par là ? Je vais appeler ça une collision inélastique, parce que je n'aurai pas changé la nature des molécules, mais seulement leur état interne. Ou bien, est-ce que ici, ça va très mal se passer, elles vont partir dans ce puits épouvantable ici, et elles vont disparaître. Et je vais appeler ça collision réactive. Et donc, dans le formalisme, je vais pouvoir évaluer tout ça, c'est-à-dire qu'est-ce qui sort ici, et qu'est-ce que je perds là. Et donc, je vais voir si j'ai des collisions élastiques, des collisions inélastiques, des collisions réactives, et lesquelles dominent. Je regarde la sortie de mes différentes voies. Et je mesure ces taux, et je les compare. Et ça me donne ceci. Ici, il y a des, voici les graphes donc, de ces différents taux de collision élastiques, inélastiques, réactifs, en fonction de la fréquence de Rabi, autrement dit la caractéristique et la force du couplage électromagnétique avec le système. Il y a les deux polarisations que j'ai mis ici, mais on voit que les deux résultats sont très proches. Et l'on voit ici, alors c'est écrit un peu petit, mais là on voit 10-10 pour ce taux de collision élastique en centimètres cubes par seconde ici. Et l'on voit ici que pour le taux inélastique, eh bien on part au début avec des valeurs qui sont tout à fait similaires. Mais ce que l'on voit, c'est que si on augmente le couplage, eh bien ce taux de collision élastique est réduit de façon dramatique. Autrement dit, cette barrière répulsive est extrêmement efficace. Pareil pour les collisions réactives. Au début, il ne se passe rien. Vous voyez, j'ai des taux très grands, c'est-à-dire les molécules ont tendance à réagir, c'est ce que je vous disais. Mais à cause de cette barrière répulsive, eh bien, ce taux de collision réactive baisse dramatiquement, là aussi, et sont supprimés complètement. Et donc, je peux mettre tout ça sous la forme d'un seul paramètre, voilà, et gamma, où je fais donc le taux de collision élastique sur le taux de collision destructrice, des mauvaises collisions, et on voit que, eh bien, on peut atteindre vraiment des facteurs qui sont, là j'ai mis jusqu'à 1000, autrement dit, quasiment supprimer tous les phénomènes parasites et ne garder que les collisions élastiques, et donc garder la stabilité du système moléculaire. Et donc ensuite, ben, faire ce refroidissement évaporatif, etc. Alors tout ça, c'est un modèle. Ça se passe dans des températures 400 nanoka qui sont tout à fait celles de l'expérience. Des décalages ici vers le bleu qui sont tout à fait réalisables et également des fréquences de Rabi qui sont tout à fait réalisables. Et par ailleurs, lorsque l'on fait le calcul de ces taux ici, lorsqu'il n'y a pas de champ, on trouve en fait dans nos calculs un taux qui est complètement compatible avec ce qui est trouvé dans l'expérience. Une manière de vous dire qu'on ne s'est pas trop gouré dans les interactions à grande distance et qu'on a vraiment obtenu une bonne description initiale du système et qui nous fait croire que tout ça est vraisemblable. Voilà. Après, on peut regarder ça en fonction de la fréquence de Rabi et de la température. On peut regarder ça en fonction du rapport oméga sur delta pour voir quand est-ce que ça marche le mieux, parce qu'évidemment, si on augmente delta, oméga, il y a ici un compromis expérimental à obtenir, parce qu'on ne peut pas évidemment explorer l'ensemble des valeurs du paramètre, et au total, on voit qu'on a des domaines tout à fait acceptables où ce paramètre gamma peut prendre des valeurs de plusieurs milliers dans des conditions expérimentalement réalistes. Le dernier point, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme ici le système s'approche, il faudrait pas, et comme il s'agit d'une molécule excitée, il ne faudrait pas que pendant que ça s'approche, la molécule excitée se désexcite par émission spontanée. Sinon, tout est perdu. Et donc, il faut s'assurer que le temps de collision soit plus court, que le temps de vie de la molécule. Et donc, on a calculé la durée de vie radiative de cet état moléculaire, qui est ici, qui s'établit à plusieurs microsecondes. Et si l'on fait une sorte d'évaluation classique d'ailleurs, on retrouve des formules qui sont proches de ce qu'on a vu tout à l'heure, du temps nécessaire pour faire cette collision ici, pour être au voisinage de cette interaction, eh bien, on trouve de l'ordre de la nanoseconde. Autrement dit, ce temps d'interaction avec le champ électromagnétique, là où il y a l'interaction, est plutôt court devant la durée de vie, ce qui fait que l'émission spontanée ne devrait pas poser de problème dans ce genre de schéma. Et ce genre de choses, on s'aperçoit, on l'a fait pour un ARB, et en paramétrisant un petit peu le moment dipolaire, la constante de rotation, donc les caractéristiques de la molécule, et on peut évaluer à la louche les valeurs de fréquence de Rabi et d'intensité de laser qui sont nécessaires pour avoir un gamma de l'ordre de 1000. Voyez, eh bien, vous voyez qu'à part pour certains systèmes qui demandent vraiment des intensités grandes, et c'est la plupart du temps parce que le moment dipolaire est tout petit, autrement dit, les interactions sont toutes petites, il faut quand même qu'on ait des molécules qui interagissent significativement entre elles, eh bien, à part cela, tous les autres systèmes sont susceptibles de pouvoir réalisés dans des conditions expérimentalement réalisables. Donc voilà ma petite histoire, c'est-à-dire au total, on voit que dans ce domaine des molécules froides, pour conclure, on est effectivement capable de les créer en tant que tel, en tant qu'objet isolé ou dans un gaz peu dense, on est capable de les créer, ça a permis de faire tout un tas d'explorations spectroscopiques, de collisions, on s'aperçoit qu'on est capable de les manipuler, de détecter des réactions chimiques ultra-froides, comme je vous l'ai dit, avec ces molécules de KRB, on est capable de voir qu'elles ont des interactions anisotropes, Le seul problème actuellement, maintenant, c'est qu'on n'est pas capable de les garder. Et donc, il y a plusieurs entre... Et donc, si c'est ça, c'est un petit peu un désastre, hein, vous êtes d'accord avec moi. Et donc, bien, seulement les physiciens, ils ne s'arrêtent pas là, évidemment. Sont venues toutes ces idées donc, pour tenter d'empêcher. Et je crois que la prospective est extrêmement, extrêmement optimiste. Hein, on a vu deux réalisations déjà. Celle-ci ne l'est pas encore, mais j'ai espoir qu'effectivement, elle viendra également un jour. Et donc, ça donne ici une palette d'options pour effectivement, donc encore une fois, en anglais, ça sonne bien engineering molecular interactions. Ça sonne bien engineering. Et c'est un peu difficile. Manipuler en français, je ne sais pas comment, contrôler. Enfin, on n'a pas le même mot tout à fait en français. Manipuler avec ingéniosité, on n'a qu'à dire ça comme ça, les interactions entre molécules. Et c'est ça qui est formidable, je crois, avec ce domaine. C'est ce fait, avec cette mécanique quantique, qui montre une fois de plus à quel point c'est une théorie extraordinaire, et qui montre, et c'est ça aussi qui est absolument extraordinaire, le contrôle que l'on est capable en laboratoire de pouvoir espérer sur ces systèmes. Alors bien sûr, c'est loin d'être le seul exemple, et c'est loin d'être le premier exemple. Les horloges atomiques, évidemment, sont des archétypes de ces choses-là. Mais je trouve ça extraordinaire que ce domaine puisse permettre de commencer à explorer la limite des théories physiques, et en particulier, vous savez, toutes ces choses qui sont liées à la mesure de variation temporelle des constantes fondamentales ou alors du moment d'hypothèse de l'électron. Et je trouve ça extraordinaire que, effectivement, c'est un domaine où on est quasiment capable de reproduire des expériences qui, d'habitude, on aurait pensé, il y a 10 ans, qu'elles se feraient uniquement au CERN. Par exemple, au moment dipolaire de l'électron, il faudrait des anneaux de collision pour effectivement voir la limite du modèle supersymétrique ou juste comme ça. Là, avec des expériences de physique atomique, on est capable maintenant de pouvoir répondre peut-être à ces questions-là, à la limite de ces théories d'unification des interactions. Alors, ça, c'est une contribution bien modeste, bien sûr, mais c'est juste une manière, une emphase pour dire à quel point, effectivement, ce domaine est excitant. Et donc, et le contrôle sur la nature que l'on peut faire donne de belles possibilités. Et enfin, donc, une conclusion à quelques photos. On a la chance que le laboratoire Aimé Cotton est en train, le bâtiment est en train d'être rénové. Et donc, voilà le chantier actuel. Et en ce qui me concerne, j'aurai la chance d'inaugurer ce bâtiment l'année prochaine. Donc, c'est un grand honneur de ce point de vue-là. Je vous remercie pour votre attention.